14-18. 100 ans déjà.
Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.
Zanzo et la Grande Guerre.
Au mois de novembre 1918, les soldats attendent d'être démobilisés. Usés par les fatigues de la guerre, marqués par les deuils successifs, ces hommes sont sous les drapeaux depuis de nombreuses années. Certains, comme les classes 1912 et 1913, achevaient ou commençaient leur service militaire à l'été 1914. Cela fait déjà donc 4 ans qu'ils servent leur pays. Et pourtant, l'armistice ne marque pas la fin des épreuves.
Au moment de l'armistice, il y a plusieurs façons d'organiser la démobilisation. Comme par exemple libérer les soldats par unité ou donner la priorité aux besoins économiques. C'est-à-dire démobiliser en priorité ceux qui sont indispensables au redémarrage d'une économie civile. Pour les Français et les Italiens, c'est une démobilisation à l'ancienne, fidèle au principe égalitaire auquel les combattants sont attachés.
Les enjeux d'un tel mouvement d'hommes et du matériel sont essentiels. La reconstruction d'un pays en ruine, sa stabilité politique et sociale. Cependant, on ne peut libérer trop vite des soldats qui constituent un moyen de pression sur l'Allemagne avant la signature de la paix définitive à Versailles, le 28 juin 1919.
La sortie de guerre apparaît comme un temps incroyablement long où se mêlent la frustration, l'impatience et l'ennui. La démobilisation est tout d'abord un synonyme de frustration et d'inquiétude pour les futurs démobilisés, celle de retrouver une place. Leur place est dans un monde civil qui a fonctionné sans eux pendant la guerre. Les échos qui parviennent aux soldats démobilisables de leurs camarades démobilisés ne sont pas toujours rassurants. Les hommes craignent que leurs femmes les aient abandonnés et soient partis avec d'autres hommes.
Sur le plan professionnel, les entreprises sont dans l'obligation légale de reprendre leurs anciens employés. Mais il faut un avis à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent le retour chez soi, ce que beaucoup oublient de faire.
Par ailleurs, bien souvent, le patron fait valoir d'un air embarrassé qu'il lui est impossible de mettre à la porte celui qui a remplacé le soldat mobilisé pendant 4 ans. Pour les commerçants, le problème est différent. Il faut parvenir à reconstituer une clientèle qui a pris d'autres habitudes. Seuls les agriculteurs retrouvent la plupart du temps leur exploitation que leurs familles ont fait fonctionner, parfois avec des prisonniers de guerre allemands.
Les anciens combattants sont très attentifs aux conditions de leur démobilisation et aux marques de reconnaissance que leur réservent les civils. L'inconfort des trains de marchandises dans lesquels ils sont rapatriés les ulcère. Le don d'un costume les humilie puisque, par manque de tissu, il s'agit le plus souvent d'un habit militaire, teint pour la circonstance. L'indemnité de démobilisation, 490 francs de l'époque, pour une année dans une unité combattante, ne représente pas plus de 2 mois de subsistance.
14-18. 100 ans déjà.
La guerre est aussi un synonyme de deuil et de traumatisme à cause des pertes militaires et de la grippe espagnole. L'armée française, en 1918, est une armée de deuil et la victoire est une victoire endeuillée, ce que les personnes oublient trop souvent.
Les historiens qui cherchent à écrire sur les traumatismes de guerre rencontrent de nombreux problèmes, et notamment le manque des sources. La parole des endeuillés est une parole rare, et celle de malades psychiques est presque inexistante. Ce sont donc le plus souvent les proches des anciens combattants qui témoignent les souffrances endurées par les soldats démobilisés.
En 1918, la zone des combats au nord-est de la France est un champ de désolation. Les villes étaient en ruine et truffées d'obus. Mais la volonté de redonner vie à une région dévastée l'emporte sur le découragement. Dans un premier temps, l'État entreprend le déblaiement des champs de bataille et la reconstitution d'une agriculture de base. C'était les prisonniers de guerre qui durent s'acquitter de cette tâche. Puis la construction de logements provisoires en 1919, cette population fut confrontée à une crise de logement. Mais c'est qu'en 1922-1923 que la plupart des bâtiments furent reconstruits. Le gouvernement a adopté une politique commune sur toutes les zones sinistrées.
Par exemple, dans un département du Nord, en 1919, sur 841 villes dans les départements de l'Aisne, seulement 6 n'ont eu aucun dommage. Sur les 530 000 habitants du département, simplement 196 800 y demeurent en 1918. La République française aide les citoyens pour financer les reconstructions. Lorsque les sinistrés rentrèrent au pays, ils découvrirent la disparition de la maison familiale, souvenirs ou objets du quotidien d'avant la guerre, et prennent conscience de ce qui les attend. L'administration des régions met en place des logements provisoires en bois ou en tôle.
Pour les bâtir, ils font avec les matériaux qu'ils trouvent et qu'ils récupèrent vu le manque de moyens financiers. Donc les sinistrés éprouvent une certaine déception du manque d'implication de la nation et sont parfois proches de la révolte. Une loi fut votée le 17 avril 1919. Elle permet aux sinistrés de recevoir des avances sur les futurs dommages de guerre.
La démobilisation intime. Après la guerre, les hommes qui rentrent ne sont plus ceux qui sont partis. Leurs esprits sont maintenant perturbés et leurs corps sont mutilés. Les couples ont été si longtemps séparés qu'ils vont devoir conjurer ensemble les traumatismes et construire une nouvelle vie.
L'éloignement qu'a imposé la guerre oblige les couples à s'interroger sur leur avenir. De même, les conditions de vie imposées par la guerre ont une influence durable sur les relations des hommes. Se retrouver avec femmes et enfants entre civils peut être difficile pour les soldats de retour dans leur foyer.
Les médecins décrivent les soldats comme des mutilés affectifs, agités de la nuit, invalides, nerveux, anxieux ou autistes, ce qui est néfaste pour le couple. Toutefois, heureusement, certains soldats, même après la guerre, ont pu dépasser les épreuves et ont su redonner une nouvelle impulsion à leur vie amoureuse.
Les derniers mois de la guerre ont fait encore beaucoup de morts dans les deux camps. Le 11 novembre, les canons cessent de tonner. La guerre est finie, enfin, ou presque. Reste aux vainqueurs et aux vaincus à apprendre la paix. La Première Guerre mondiale prend fin avec la signature de l'armistice. Mais la guerre ne prend juridiquement fin qu'avec la signature du traité de Versailles, le 28 juillet 1919. Ajoutant que les survivants gardent des séquelles physiques et morales.
En Allemagne, la déception contamine l'arrière et on ne croit plus en une issue heureuse du conflit et la signature de l'armistice ne provoque guère de réaction. En France, même si la certitude est devenue à peu près générale que la guerre est finie, il faudra attendre la signature pour que la joie éclate enfin. Ce qu'il fait, l'impression de sortir de 4 ans de ténèbres.
Passons maintenant à notre fil rouge. Nous avons sélectionné la carte de Monsieur Côte en date du 28 mars 1917. La carte que nous avons choisie est une photo en noir et blanc prise à Paris au Jardin des Plantes. C'est une scène d'extérieur qui se déroule en automne car les arbres sont sans feuilles. Sur le côté gauche de la carte, nous voyons une famille d'ours bruns, sans doute des ours des Pyrénées. On peut voir un homme, un gardien de zoo, qui donne sa récompense à un ours. Dans la légende, on nous précise que l'ours s'appelle Martin. Martin est debout sur ses pattes. Il récupère sa récompense. Le gardien se penche vers l'ours.
Cette carte est attachante. L'ours rappelle le nounours, le doudou, la tendresse. Et puis c'est un moment de chaleur pendant cette dure période.
Moi, Émilie, je pense que l'ours représente le soldat qui est récompensé pour sa bravoure.
Quant à moi, je pense que l'ours est le soldat prisonnier qui est condamné à mourir.
Moi, Carla, je pense que c'est un père de famille qui est venu distraire ses enfants.
S'entend déjà. Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.